Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous allons continuer nos émissions sur un sujet qui est un sujet qui est revenu souvent ici, à Radio Occitanie, dans l'émission Les Poètes, c'est un sujet sur les troubadours. Alors les troubadours, c'est Michel Cozin qui est venu nous en parler, puisque il a écrit un roman sur Peyre Vidal, mais c'est également Marie-Jeanne Verny qui est venue nous parler de l'influence des troubadours sur les poètes occitans contemporains. Et c'est tout à fait passionnant. Alors, de voir la réaction de l'ensemble de ces poètes, hein, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à maintenant, quelle a été l'influence. Alors, elle est assez diverse, cette influence, mais elle est incontestable. C'est-à-dire que tout auteur occitan, et en particulier tout poète occitan, est confronté, à un moment donné, à cette littérature du XIe, XIIe, XIIIe siècle, hein, puisque après il y aura, après l'œuvre des troubadours, il y aura la vie des troubadours, etc. Et donc on est là en présence d'un phénomène littéraire qui me semble être majeur, en tout cas pour notre civilisation occitane. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Francis Pornon. Francis, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Merci beaucoup d'être venu présenter ce livre, Les Dames et les Aventures du Troubadour Raymond de Miraval, sur Radio Occitanie, roman historique donc, qui vient de paraître aux éditions TDO dans la collection Histoire du Sud. Alors nous allons parler tout de suite de ce troubadour qui est emblématique certainement de cette littérature justement des troubadours, mais avant, si tu le permets, comme nous sommes une émission de poésie, et là nous sommes bien entendu dans le cadre de la poésie avec Raymond de Miraval, je vais faire une petite annonce sur un des poètes dont nous parlons souvent ici. C'est un poète de notre génération, quand même, hein, qui a un certain âge, qui est Marcel Migosi, et qui vient de faire paraître aux éditions Petra, Des jours en s'en allant. Alors, c'est un très beau recueil aussi, et Marcel Migosi, dans l'exemplaire qu'il m'a adressé, a ajouté au titre Des jours en s'en allant, je le découvre là maintenant, ce matin, je n'avais pas vu tout à l'heure. Des jours en s'en allant, il a mis vers et un point d'interrogation. Donc, où s'en va-t-on? Où s'en va-t-on? Et il me dit, cher Christian, voici quelques pages entre ombre et lueur, entre ombre et lueur. Donc, on retrouve le ton de Marcel Migosi, surtout depuis, disons, ces dernières années. Hein, c'est Marcel Migosi qui est quand même l'auteur d'une œuvre qui aujourd'hui apparaît quand même assez importante. Sa bibliographie, c'est de plus de 4 pages donc du livre, hein, sur les publications. Et donc avec ce recueil où il y a en exergue cette phrase de Philippe Jacotet, il y a des moments plus vrais que d'autres, il y a des moments plus vrais que d'autres. On retrouve tout le parler de Marcel Migosi, hein, c'est-à-dire ce moment où effectivement il y a des moments plus vrais que l'autre, c'est-à-dire ces instants où tout d'un coup il peut y avoir des éclaircies de lumière, mais aussi peut-être des obscurcissements, je dirais. Presque un peu comme si le ciel s'allumait, s'éteignait. C'est un peu ce que l'on ressent de l'ensemble de ces très beaux poèmes, donc de ce livre. Exemple. Autrefois dépliait l'hiver, la couverture pour l'enfant, ses doigts se désengourdissaient parmi des châtaignes rôties. Dans des verres à moutarde, les vieux parents sacraient le vin chaud et la vie n'avait pas conduite aux urgences. Donc à la fois quotidien, l'enfance, et puis cette interrogation toujours, où on va et pourquoi, pourquoi on avance, dans quel but on avance. Alors Marcel Mengozzi, il est né à Toulon, rue de la Fraternité, c'est, je trouve que c'est une belle prédisposition de naître rue de la Fraternité, dans une famille ouvrière hein, et d'origine corse. Alors cette origine, il lui restera toujours fidèle. Hein. Il est instituteur, poète, bien sûr. Il a fondé son écriture sur le regard rapproché du silence, sur l'exigence sereine d'un mieux à vivre. Alors mieux à vivre ou mieux à mourir. Et dans ce recueil, c'est, disons, peut-être que le mieux à mourir l'emporte un peu sur le mieux à vivre. Voilà, tout ça dans une espèce de fertilité de mots. Alors de mots travaillés à la Mengozzi, c'est-à-dire un peu au cordeau. Quelqu'un d'une extraordinaire rigueur. Il faut raboter la langue, il faut la sarcler, il faut la dépaysager. Et c'est quelqu'un qui est sensible à l'humus comme à l'humain. Son œuvre donc a été reconnue et célébrée par le prix des prix d'ailleurs qui n'existent plus maintenant, le prix Jean Malrieux, le prix Antonin Artaud et le prix Descharmettes Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Donc c'est aux éditions Petra et ça vous coûtera 12 euros. Marcel Mengozzi, des jours en s'en allant, littérature française, collection poésie. Voilà. Vous aurez tous ces renseignements, bien entendu, sur notre site les-poètes.fr. Et puis, je pense que nous essaierons de faire une émission avec Marcel Mengozzi sur l'ensemble de ses derniers recueils. C'est une œuvre qui compte dans l'histoire de la poésie de notre siècle, Marcel Mengozzi. Alors, Francis Pornon, Les Dames et les Aventures du Troubadour Raymond de Miraval. Donc, aux éditions TDO. D'ailleurs, il y a quelque chose de très flatteur, parce que cet éditeur dit que ça a été un des livres qu'il a le plus enthousiasmé, qu'il ait fait paraître. Bon, j'ai trouvé ça quand même très, très agréable pour l'auteur. Hein. Alors, il y avait, on entre là dans la littérature donc des troubadours, et puis cette extraordinaire aventure quand même qu'a été la vie des troubadours. On l'a vu avec Peyre Vidal, mais on va le voir avec Raymond de Miraval. Or, Raymond de Miraval, tu le disais en début d'émission, c'est certainement un des troubadours qui est le plus emblématique. On va voir pourquoi. Mais également un des troubadours qui a été le moins cité, ce qui est assez curieux. Et il faut remonter, effectivement, à 1986 avec ce livre de René Nally, que j'ai relu là ces derniers temps, en raison, bien entendu, du fait que tu venais de publier Les Dames et les Aventures du Troubadour Raymond de Miraval, où il disait, lui, le roman de Raymond de Miraval, Troubadour, hein, c'est-à-dire une vie tout à fait romanesque. Mais dans l'œuvre de Nally, il y a toujours ce côté de l'analyse littéraire, profonde, toujours l'exégèse des textes. Hein. Et on va voir d'ailleurs cette exégèse des textes qui est très intéressante. Hein. Par exemple, comment il analyse les poèmes de Raymond de Miraval sur le plan de l'avancée de l'amour courtois. Hein. On va en parler tout à l'heure. Je trouve ça tout à fait remarquable. Mais ce livre de Francis Pornon, donc, à mon sens, il complète beaucoup le livre de René Nally, puisque, sur un ton qui est un ton alerte, qui est le ton du roman, c'est-à-dire qu'on lit ça véritablement comme un roman, comment dirais-je, d'aventure, ou avec le même plaisir, un plaisir tout à fait ludique. Hein. Il y a quelque chose de jubilatoire dans la lecture de ce livre. On va rentrer dans les pérégrinations du quotidien de Raymond de Miraval. Alors, ma première question, c'est comment t'es-tu plongé, parce que vraiment quand on lit ce livre, on dirait que tu y es, quoi. Comment t'es-tu plongé dans cet univers pour arriver dans ce détail du quotidien, vraiment de cette vie romanesque et profonde de Raymond de Miraval?
Alors, je peux dire que pour me trouver très à l'aise, ça me fait plaisir que tu aies senti cette, comment dirais-je, cette proximité, cette immersion, parce que, en effet, lorsque j'étais dedans, dans l'écriture, j'avais l'impression d'y être, mais vraiment jusqu'au cou, complètement. Je pense, et c'est connu, ça ne te surprendra pas, il y a deux recettes pour y parvenir. C'est le travail, certes, et donc j'ai étudié non seulement la période en général, dans ses traits globaux, les guerres un peu incessantes entre les grands seigneurs, la situation de l'Occitanie aussi, qui était objet de convoitises, de forces qui, prétendant lutter contre une hérésie, en fait, cherchaient à s'accaparer les richesses, etc. On en reparlera éventuellement. Et puis, il y a l'inspiration, on pourrait dire. Et cette inspiration, elle vient pas par hasard. Mon père était, bien qu'ayant des parents... originaire d'ailleurs, mais mon père était un occitaniste convaincu. Il a fait partie du groupe qui, à la libération, avec les castans, les brus, etc., ont constitué, c'était pas les premiers responsables, mais enfin, ils ont fait partie donc de la constitution de l'Institut d'études occitanes. Il était absolument passionné, il connaissait Nelly. Et il m'a donné un peu le virus. Mais je dois dire que ça m'a pris très très longtemps avant de me lancer dans ce livre sur Raymond de Miraval, que je voulais, ou Raymond, puisque on peut prononcer quand même à l'Occitane. Ça m'a pris très longtemps avant de me lancer. Je dois rendre hommage à l'éditeur qui m'a dit, lorsque je lui ai présenté le projet... Il m'a dit, mais foncez, allez-y, c'est très bien, c'est très beau, ça nous plaît beaucoup, allez-y. Et donc je me suis lancé. Et à partir de ce moment-là, ça a coulé, mais vraiment comme la source. Ça a coulé tout seul, avec tout le travail quand même qui était nécessaire pour ne pas raconter de bêtises, et pour savoir combien de temps faut-il pour se rendre de Carcassonne à Miraval, etc. Bon, c'est pas comme aujourd'hui, on prend pas sa voiture pour rouler 10 minutes.
Les chemins, c'était les chemins à l'époque.
L'état des chemins.
Les étangs, tu dis, qui peuvent déborder du côté de Locate, etc. Qui peuvent déborder, qui débordent, donc il faut prendre les routes et les corbières, etc.
Il y avait quand même un minimum de renseignements sur la véracité, mais le plus important, c'était encore de travailler Nelly, comme tu l'as dit très justement, parce que on a affaire là à la naissance de l'amour en Europe. Et ce que ne savent pas la plupart des lecteurs, j'espère qu'ils vont l'apprendre avec plaisir, c'est que nous sommes toujours dans cette période.
Absolument.
Nous vivons toujours cette période. Oui. Ça a été très bien dit par Nelly, d'autres.
Oui. D'autres. Oui, absolument. Alors, c'est-à-dire, ce sujet en définitive, ce qui m'envahit, c'est les questions. Je voudrais essayer de voir qu'est-ce qui est peut-être le plus important. Peut-être aussi, d'abord, l'époque. On a reçu, il y a peu de temps, Jean-Pierre Lassalle, qui est un poète surréaliste, et qui parlait aussi de cette époque-là, où il disait qu'il y avait... Il y avait deux choses qui étaient totalement opposées, c'est-à-dire une espèce de rudesse de vie, et on va retrouver ça dans ton roman. D'ailleurs, j'ai noté un passage où c'est noir sur blanc ce que je vais dire là. C'est une espèce de vie que l'on dirait maintenant assez tellement rude qu'elle est presque barbare, d'un quotidien terrible,
de bataille, d'espèce de violence et de précarité de la vie, et à côté de ça, des cours prestigieuses, avec un raffinement sur tous les plans, y compris, alors, grâce au troubadour, y compris sur le plan littéraire. Et donc, il y a cette espèce de décalage d'époque où on va trouver des cours, il disait, la cour d'Orthez, par exemple, qui était prestigieuse, etc. Or, on va retrouver ça. Dans ton livre, on retrouve de Raymond de Miraval, qui va de cours en cours, des petites cours ou des grandes cours, mais on voit que partout, quand même, il y a ce phénomène des seigneurs qui s'entourent de cours, et c'est dans ces cours-là que vont passer les arts et la civilisation. Et la civilisation va se faire dans ces cours. Et le troubadour était celui qui passait d'une cour à une autre cour. Et Raymond de Miraval va ne faire que ça, en définitive. Et puis, il y a quand même ce côté du quotidien et de l'époque, qui est une époque, on dirait maintenant, d'une précarité absolue. Et tu dis, par exemple, dans une scène où Raymond de Miraval connaît pour la première fois, parce qu'il a été épargné, lui, c'est une espèce de le clerc de l'époque, grand temps troubadour, il va se confronter à cette vie des chevaliers, qui est une vie de bataille, de fer, de sang. Et il y a un passage où tu fais bien le distinguo entre ces deux états, l'état du chevalier, donc c'est-à-dire un état vraiment qui est toujours sur le fil du rasoir de la guerre, et puis l'état du troubadour. Voilà. Alors j'ai trouvé ça. Ce temps de l'amour des dames naissant chez nous, les hommes, c'était encore et toujours celui de notre barbarie virile. Voilà, j'ai retrouvé la phrase qui me semble faire, en définitive, la quintessence de ce qu'a dit Jean-Pierre Lassalle il y a peu de temps ici. C'est-à-dire qu'il y avait, dans la même époque, il y avait les deux. C'est-à-dire cette barbarie virile, la virilité s'exprimait par un courage tous azimuts, mais un courage terriblement barbare, qu'il fallait tuer, quoi. Et puis, cette préoccupation totalement à l'opposé, cette préoccupation du temps de l'amour des dames. Voilà.
Oui. C'est l'époque d'un basculement, en somme, des modèles, des idéologies. C'est une époque très trouble, avec donc la religion catholique qui subit des hérésies. L'hérésie albigeoise cathare en est une, avec, disons, des mouvements ressemblants comme les vaudois, etc. Il y a aussi quand même la présence des juifs qui pose problème. Il y a des édits royaux du roi de France, oui, du moins, visant à les spolier, à les chasser. Ces édits ne sont pas appliqués dans le sud en général, vers chez nous. Bref, il y a, donc tu viens de le rappeler, le modèle du chevalier. Ouais. Le preux, c'est le courageux, c'est voilà, le guerrier. Voilà, c'est ça que ça veut dire, preux.
Oui.
Et puis, tout d'un coup, naît un nouveau modèle d'homme, aussi, associé à un certain culte de la femme, un renversement des valeurs, comme dit Nelly. Celui qui est le plus fort, tout d'un coup, c'est la dame. Et voilà que le troubadour doit la supplier. Et certains seigneurs sont également troubadours, se veulent également troubadours. On a ce fameux renversement de la domination dans les rapports personnels, qui est fondamental, et un autre modèle d'humanité. Il n'y a pas de déclaration des droits et des devoirs de l'homme, mais sans arrêt, Raymond de Miraval, surtout, beaucoup, mais bien d'autres, sans arrêt, disent ce qu'il faut faire, comment il faut être, pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de valeureux, comme ils disent. Voilà. Et ça, c'est une époque qui est inaugurée, qui fait tache d'huile un peu dans toute l'Europe de l'Ouest, au moins, puisque dans toutes les cours européennes, on se met à versifier en occitan, en parlant d'amour courtois. Et je crois que cette période n'est pas terminée. En gros, nous vivons un petit peu sous les mêmes modèles, bien que il y a toujours des... C'est marrant parce que on me demande quelquefois, mais quelle est l'actualité? Enfin, pourquoi t'intéresses-tu au troubadour? Eh bien, je crois que ça reste actuel. Hein, les problèmes existentiels qui sont posés sont toujours posés. Qu'est-ce que vivre? Est-ce que c'est dominer quelqu'un par les armes, ou est-ce que c'est tenter de le, alors, dominer peut-être, ou posséder peut-être aussi, ou comprendre, partager? Voilà, qu'est-ce que l'amour? C'est assez compliqué, mais je pense que nous sommes toujours dans ces questions-là.
Tout fait. Et je crois qu'on est toujours aussi dans ce partage. On le voit dans ce qui se passe dans les événements les plus cruels que l'on vit actuellement. Hein. C'est toujours aussi la barbarie d'un côté, donc c'est-à-dire le pro-chevalier, c'est-à-dire le combat, la domination dans lequel l'amour n'a pas sa place, du moins l'amour de la femme n'est pas du tout mis en valeur. Et notre civilisation dans laquelle on peut penser quand même que c'est les troubadours qui ont triomphé. On peut dire que actuellement quand même, la valeur de l'amour telle qu'elle était préconisée par les troubadours, à mon sens, a triomphé.
Quelque part, il y a eu une défaite politique, guerrière et politique, on peut dire. Puisque notre région, notre Languedoc a été conquis, et puis ensuite, annexé à la couronne de France.
Mais
il y a eu une victoire, on peut dire, culturelle.
Culturelle, oui, de l'idée, et même philosophique, quoi.
Et même philosophique.
Oui,
parfait, profonde. Parfait. Et c'est à nous, il nous revient d'essayer de le faire bien savoir, d'essayer de, parce que les influences culturelles sont tellement variées, celles qui viennent d'outre-Atlantique ou celles qui viennent du Nord aussi, sans les rejeter. Mais au jour d'aujourd'hui, la puissance médiatique fait que les gens sont probablement surpris si nous entendent dire que l'idéologie des troubadours est dominante aujourd'hui. Or, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Quand on parle d'amour, quand on pense à l'amour, eh bien, en gros, il s'agit de l'amour des troubadours.
Oui, l'amour des troubadours, le fin amour, hein, voilà. Et l'amour courtois.
Voilà. L'amour courtois qui est tout, sauf uniquement platonique. Hein.
Absolument. Oui, c'est parce qu'il y a eu...
Les spécialistes,
Oui. Alors, absolument, parce que on va voir d'ailleurs, on va rentrer peut-être dans le détail du livre, mais oui, l'amour courtois, c'est une longue marche, mais qui a pour but, bien entendu, d'arriver à la finalité, c'est-à-dire la possession pleine et entière de l'objet convoité qui est la femme. Mais cette possession se fait non pas par la violence et par la force, mais par la séduction, le consentement et le ravissement, quoi. Il faut être ravi de succomber.
Tout à fait.
Voilà. Alors, je crois qu'on va, si tu le veux bien, on va donner peut-être à nos auditeurs la lecture d'un passage pour voir le ton de cette langue, donc du livre.
Je peux proposer d'abord de lire un paragraphe qui est une sorte d'auto-présentation Raymond de Miraval, parce que j'ai écrit le livre comme une pseudo-autobiographie, en quelque sorte.
Oui.
Il est évident qu'à l'époque, on n'écrivait pas un roman comme on écrit aujourd'hui, mais les écrits de Raymond de Miraval sont assez abondants pour nous permettre de se livrer à ce jeu. Et donc, voici Raymond qui se... fait une petite présentation. Je m'appelle Raymond de Miraval, Je suis né au XIIe siècle au-dessus de Carcassonne, en un monde où règne la loi du plus fort. Les terres et les gens appartiennent au Seigneur, les hommes prétextent quelques dieux pour justifier de terribles forfaits, les guerriers mutilent le têtu, les mâles prennent les femmes comme tribu. Or, voici qu'en ce même temps, les poètes du Sud apprennent à l'Europe la poésie d'amour en langue d'oc, langue de chaudes rocailles et de vents embaumés. Si bien que l'on aime à les copier partout, ainsi que fit le trouvère chrétien de Troyes en la langue d'Oyle, autrement dite langue des Francs ou de France. En ce monde sauvage et sombre, je suis ballotté par les événements et par les cataclysmes, et aussi ensoleillé par le désir, car voici s'épanouir la délicatesse et la passion à chanter l'amour des belles dames.
Oui. Très bien.
Donc ce paragraphe est une sorte d'auto-présentation. Oui, oui. Je pourrais naturellement vous donner lecture d'un certain nombre d'autres, ou tout de suite, ou un peu plus tard.
Peut-être oui, sur la, en continuant, oui, pour qu'on entende
voilà.
le souffle de cette écriture, hein, qui est.
Eh bien, je te remercie parce qu'il est vrai que raconter une histoire compte non seulement par ce que l'on raconte, mais par la manière.
C'est surtout, oui.
Et par l'écriture.
Moi, je dis que c'est l'écriture avant tout. Hein.
Par l'écriture. Oui, oui. Alors là, nous sommes à la cour d'Ermengarde de Narbonne, où Raymond de Miraval, adolescent, a été envoyé pour apprendre la vie et pour apprendre aussi le troubard, la poésie d'amour.
Oui.
Guiraud de Bourneil vient de chanter en s'accompagnant d'un instrument, le troubadour Guiraud de Bourneil. Raymond, encore adolescent, lui demande de l'initier au troubard, ce que le troubadour ne peut refuser devant la châtelaine. Une suivante de la maîtresse de maison vint m'aviser qu'Ermengarde a souhaité me parler seul à seul. Je rejoignis la maîtresse dans son cabinet, où une femme de chambre la peignait pour la nuit dans une pénombre qui tranchait avec les éclairages de la grande salle. Elle me parla alors comme à un enfant, avec tendresse et fermeté. « Mon garçon, puisque tu veux être troubadour, connais bien d'abord le code de la fine amour. » L'amour courtois. Il est inutile d'espérer obtenir vite d'une dame ce que tout garçon peut désirer de l'autre sexe. Le plus que peut offrir la femme en se donnant ne peut venir qu'enfin de l'ascension amoureuse, laquelle doit commencer par le regard et s'ensuit du baiser, puis de la vue nue, ensuite du jaser et enfin seulement du mélange des corps. La gradation, les degrés de l'amour ont été très bien théorisés par René Lely, à la suite de sa lecture de Raymond de Miraval. Donc. Je continue la lecture. Je demandais ce qu'était le jaser. Elle sourit devant mon ignorance et précisa que c'est le coucher, en manière d'essai, la saille, l'épreuve d'une nuit, à passer nu, côte à côte, sans se pénétrer. Elle ajouta que poète, je serai bientôt capable de chanter une bien-aimée. Si celle-ci me prenait comme amant, il faudrait que je ne la déçoive pas, que je sache la faire accéder au joie et jouissance partagées. C'est pourquoi Ermengarde me réservait une surprise. Que je regagne ma chambre et j'aurai une visite. Ah, encore une chose, il va falloir que tu apprennes à te raser les joues. Les poètes d'amour, hommes sensibles et raffinés, ne sont de ceux qui s'enorgueillissent d'une barbe censée prouver leur virilité. Je me retirai. Dans l'étroite alcôve, la faible lueur d'une lampe à huile jaunissait à peine la tête d'une femme. En me rapprochant, je vis que, d'âge moyen, presque celui de ma mère, c'était une des danseuses qui nous avait charmés lors de la fête. Elle me causa une frayeur en brandissant une lame de couteau. Il s'agissait d'un couteau à raser dont elle éprouva le fil avec le pouce avant de m'enduire les joues et le menton de jus de saponaire. Enfin, Elle me fit placer sous le coulis de la lampe, qu'elle nettoya et approvisionna en huile afin de mieux y voir pour raser les quelques poils de duvet d'adolescent, ce par petits à-coups brefs, en tendant ma peau avec ses doigts. La danseuse déclara être chargée de m'initier. Je me mépris et répondis que je préférais travailler le jour, ce qui la fit rire, sans la décourager. La chevelure très brune, la poitrine et les hanches généreuses, mises en valeur dans son voile transparent, elle commença par me faire boire une tisane de sauge et céleri, simple cordiale et bonne pour ce que je devais faire, dit-elle. Puis, en quelques gestes, je n'en crus pas mes yeux dans la pénombre. Elle devait être... Mais oui, elle était toute nue. Mes yeux accoutumés à l'obscurité ne me trompaient point. Elle confirma en se plaçant sous la lampe. Pour la première fois, je voyais une femme sans cache. La silhouette de son grand corps blanc se découpait au-dessus de la corolle multicolore tombée à ses pieds. Sa chevelure d'ébène sur laquelle jouait la lueur jaune de la lampe coulait sur sa chair d'ivoire qui s'assombrissait plus bas où se dressaient de beaux seins oblongs, un peu lourds mais apparemment fort fermes et ornés de tétons pourpres. Cette splendide poitrine me rappelait celle de ma nourrice qui restait gravée dans mon souvenir. Le ventre de la danseuse, virant aux chaînes claires par manque de lumière, était lisse, comme celui d'une statue. « Je m'appelle Baya, » dit-elle. « Chez nous, la tradition est de s'épiler. Je suis une ancienne esclave almoravide d'Anaba, qui fut prise lors d'une attaque par les Almohades, vendue aux Andalous et revendue à un maître négociant d'ici qui me céda à Ermengarde, laquelle m'a franchi. Elle s'approcha de moi, déboucla ma ceinture d'argent, cadeau de Zalaïs, fit passer par-dessus ma tête la tunique brodée que j'avais mise pour la circonstance, et en fit autant pour ma chaise une longue chemise de fil offerte également par la dame de Carcassonne. Quand elle m'eut ôté les bras, elle me caressa en susurrant qu'elle avait mission de me faire devenir homme. Comme je restais quoi, excepté ce qu'elle recherchait, elle m'attira vers la paillasse, bascula en arrière et, allongée, ouvrit les jambes. Je ne savais que faire encore de cette fleur de chair féminine, cramoisie et luisante, désirée et tellement inconnue. Elle fit pour moi.
Voilà. Il y a toute la dimension érotique du récit là apparaît. Et c'est vraiment là on est dans ce que Nelly appelait l'érotisme des troubadours. On est en plein là hein, avec Raymond de Miraval et ce passage de l'initiation. Ça c'est sur l'amour, mais est-ce que on peut peut-être parler aussi? On est dans une époque 12e, 13e siècle. C'est une époque très tourmentée. Est tourmenté aussi sur le plan des idées et des religions. Quelle était la position de Raymond de Miraval là-dessus? Je crois que là, il y a une originalité aussi.
Tout à fait.
Totale.
Tout à fait. C'est assez étonnant de voir donc l'idéologie dominante chez les troubadours et notamment chez Raymond de Miraval. On l'a dit, cet amour est tout sauf platonique, uniquement platonique au sens quotidien. Oui. L'acte de chair est non seulement désiré, mais glorifié. Oui. Il est même parfois dit qu'il soigne de tous les maux. L'amour de la femme soigne de tous les maux. C'est tout le contraire, en quelque sorte, des cathares qui condamnaient l'acte de chair. Il voulait qu'on ne mange pas de chair, il voulait qu'on ne pratique pas l'acte de chair. Et pourtant, on les trouve en quelque sorte alliés devant l'oppression des catholiques qui se fait manu militari. Hein. Ils ne vont pas par quatre chemins. Ils essayent d'abord de convaincre et puis ensuite ils envoient la croisade. Et donc, les troubadours étaient aussi en quelque sorte hérétiques du point de vue de l'idéologie, et les voilà pourchassés, pas autant que les albigeois, mais tout de même obligés de se ranger un peu derrière le plus fort. Hein. Lorsque le troubadour vient supplier une dame de céder à leurs instances, ça a toujours un côté un petit peu insoumis, forcément, un côté différent, voire révolutionnaire. C'est ce qu'il y a de très intéressant, d'ailleurs. Et il arrive qu'ils aient des ennuis avec des maris qui, tout en ayant entendu parler de fin amour, ne sont pas du tout contents que leur dame s'intéresse plus aux troubadours qu'à eux. Même. C'est arrivé à Peyre et Vidal, très bien raconté par Michel Cozen, et c'est arrivé aussi, malheureusement, à Raymond de Miraval, qui s'est fait plus d'une fois éconduire... soit par le mari, soit même aussi par la dame qui se trouvait dans ses propres contradictions.
On va en parler de ça.
Voilà, on va en parler.
Oui. Alors, sur le plan religieux, donc la religion de Ramon de Miraval, c'était quand même une religion totalement hérétique hein, pour l'époque.
Absolument. Hein, puisque... si on peut dire que sa religion, c'était le culte de l'amour.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il apparaît quand même.
Voilà, hein, c'est un peu ce qui semble entre les lignes.
C'est-à-dire, il voit dans les moments d'éternité que l'on peut vivre, les moments que l'on peut vivre sont les moments en définitive de triomphe de l'amour, cet instant où l'amour est dans son paroxysme.
Exactement, hein, l'amour qui triomphe de l'ordre dominant du monde, des rapports de force.
Oui. Donc on peut imaginer à quel point cette philosophie de la vie était dérangeante pour quand même la religion triomphante de l'époque, c'était la religion catholique. Hein. Aussi bien, et comme tu l'as dit également aussi pour les cathares, puisque bon, les cathares c'était quand même une façon de vivre qui était à l'opposé. Hein, des troubadours dans la mesure où ils ne partageaient pas il y a un côté quand même très hédoniste chez le troubadour.
Exactement. Voilà. Exactement. Hein, ce qui n'est pas le cas des
cathares.
Les recherchent bon.
une pureté.
Face à l'Église et à ses défauts.
Pas de faste, etc.
Voilà.
Mais il y a peut-être chez les cathares aussi, peut-être ce qui peut. C'est un amour universel, malgré tout, chez les cathares. Et cet amour universel, je crois qu'il y a une grande générosité dans ce que. Dans l'amour préconisé par Raymond de Miraval, etc. Il y a effectivement l'amour érotique, mais il y a au-delà de cela. Par exemple, si on reprend le récit là de son l'initiation de la bataille, la première fois qu'il voit la bataille, il a envie de vomir, il est très mal, etc. Il ne s'habitue pas à cette violence, etc. Hein, parce que il y a un amour de l'homme qui est profond aussi, et de la paix.
Il y a de ça, c'est un peu le surgissement d'une idée de l'humanité, d'une idée de l'homme qui n'est pas destiné à être
tout à fait au départ. Là.
Voilà, oui. Et quelque ça, part, c'est vrai qu'il y a des points communs. À mon avis, le principal point commun, c'est qu'ils sont minoritaires et dominés et pourchassés, les troubadours et les cathares. Mais on peut trouver, en effet, comme tu dis, dans le respect de l'autre, dans la tolérance, il y a quelque chose de commun entre eux.
Alors, l'amour courtois. On va peut-être parler de Azélaïs, tu l'as cité tout à l'heure, Azélaïs de Boissaison.
Oui, c'est ça. Hein? Alors c'était Azélaïs, en vieil occitan, qui est devenu Adélaïde en français. Oui. Mais il y a des auteurs, c'est pour ça que ton lapsus n'est pas du tout né du hasard. Il y a pas mal d'auteurs qui font une sorte de mélange entre les deux et qui disent... il faut un mélange, quoi. Voilà.
D'accord. Alors, c'était une grande dame, et Raymond de Miraval va d'abord s'enticher, on dirait aujourd'hui, d'elle, et va en faire un objet parce que c'est l'objet de désir et de et de louange, c'est quand même le troubadour qui le crée, ça. Hein, c'est lui qui en fait cet objet un peu magnifié. C'est la poésie, c'est le troubadour qui va le faire.
C'est clair, ouais. C'est clair. Jacques Roubaud disait la grande invention de ce temps-là, c'est la poésie d'amour.
Et oui.
C'est elle qui a créé, effectivement, cet objet magnifié, surévalué peut-être un peu, oui, comme dit Nelly.
Oui, voilà, c'est ça.
Parce que sinon, même très grande dame,
oui,
quelle est sa valeur? Eh bien, c'est une sorte de valeur d'échange, un instrument d'alliance. Un seigneur épouse la fille d'un autre seigneur, par exemple, pour cimenter une alliance politique, oui, et guerrière. Elle est aussi mère à faire des enfants pour l'héritier, mais oui, ça reste quand même une conception archaïque
et utilitaire.
Et, oui, c'est oui, ça.
Oui, tout à fait utilitaire.
La féminité oui, est quand même réduite à... Oui. Même quand elle a de beaux atours et oui, quand elle occupe une position assez dominante aux côtés du Seigneur, elle est peu de chose au regard de cette merveille, de cette sorte de déesse qu'en fait le troubadour. Et qui, quelque part, subsiste aujourd'hui. Oui. Hein, et, le culte des femmes, alors bon, aujourd'hui, on croit que seule la jeunesse a une valeur. Quelque part, les troubadours, déjà, ils sont un peu là-dedans, hein, parce que ces dames-là, elles n'ont pas 50 ans.
Oui, oui, oui.
Elles sont dames déjà à 15 ans. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais, bon, on a su... Moi, je pense, alors, on peut ne pas partager, je pense que les troubadours sont les ancêtres des libertins, et surtout des libertines. Mmh. Les dames sont les ancêtres des libertines. Et il y a un début de reconnaissance de l'humanité féminine qui est très important, très fort et très durable, je crois.
Alors, cette grande dame, il va la porter donc au paroxysme de la gloire, à tel point d'ailleurs qu'il en sera, il en a fait un objet de désir qui va être partagé bien sûr par les seigneurs dans lesquels il va se produire, et donc il va faire de cette dame quelqu'un de, on dirait maintenant, de très connu, un peu la star de l'époque, et ça va un petit peu lui gonfler la tête, ça.
C'est ça. Alors là, il s'agit
d'Azalaïs
de
Moïse-Sansou. Voilà, de
Moïse-Sansou,
c'est ça.
Oui. Voilà. Et oui, parce que, quelque part, c'est un peu le tragique de l'amour.
Oui, oui.
Tragique au sens philosophique, hein, donc
oui,
au
oui,
sens larmoyant.
Oui, oui.
C'est-à-dire que, comme tu le dis, en vantant, en élevant la dame, eh bien, on fait qu'elle devient un objet de convoitise pour les autres. Et elle va trouver le moyen, à un moment donné, de ficher le camp avec le roi d'Aragon, qui passait par là, beaucoup plus reluisant, beaucoup plus riche, beaucoup ouais, plus puissant que Raymond de Miraval, ouais, qui va se trouver ouais, délaissé. Et ça aussi, c'est très contemporain quand même. Qui n'a pas vécu ça un jour, hein, qui n'a pas été délaissé un jour par une femme qui l'est levée au nu, et quels pauvres poètes comme toi et moi n'ont pas sué sang et eau à valoriser des femmes qui nous ont laissé. Soyons honnêtes, ça arrive à tout le monde.
Voilà. Alors bon, c'était bien décrit dans ce livre, bien sûr. Hein. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on pourrait peut-être terminer sur la lecture d'un épisode de ce livre, hein? Je rappelle, c'est un livre qui a quand même... C'est un gros livre, hein? Il y a plus de 340 pages, je crois. Hein? Oui, plus de 350 pages. Donc, sur cette vie aventureuse de Raymond de Miraval, mais qui se lit comme un roman. Hein? C'est vraiment un roman.
Alors voici un passage, vous m'arrêterez si c'est un peu trop long. C'est un passage, un moment de rapport avec la fameuse Loba, La Louve.
Ah oui, la Louve.
La Louve, oui, qui était Aude de Penautiès. Et qui avait la réputation d'être, c'est peut-être ce qui lui valait son surnom de Louve, qui avait la réputation d'être très libertine et de passer un peu d'homme en homme. Bon, réputation juste ou pas, ou exagérée. Je sentis madame consentante et sans défense aucune. J'en étais à me demander comment lui proposer de poursuivre. Elle n'attendit pas. J'eus le bonheur de l'avoir quitté ses vêtements un par un, la cape de cheval mauve, le bliot garance et la robe pourpre de dessous. Serrée à la taille par une ceinture d'argent à pendentif qui mettait en valeur la poitrine, cette robe tomba. De même la chaise de lin grège et le linge de poitrine qui retenait les seins. Grâce à la chaleur dispensée par le feu, elle se tenait dans sa nudité blanche, diaphane, presque translucide, tant l'incarnat de sa peau était fragile. Parfois, le foyer lançait sur cette adorable gravure des jets de lueurs jaunes ou rouges. Je vis que la personne était blonde partout et que ses formes étaient parfaitement féminines, hanches en jarre et seins en courbe. Son ventre oblong gardait l'empreinte de ses deux enfants qu'elle avait eus très jeunes. C'était si désiré mutuellement, si naturel, si simple apparemment qu'à peine me rendis-je compte que nous accomplissions le degré de la nudité, le second après celui du baiser. Elle trembla. Était-ce de froid ou de peur ? De froid, dit-elle, car en amour on ne craint rien d'autre que la perte de l'aimé. Je me demandais toutefois si elle n'avait vraiment rien à craindre de la part de son mari, le puissant et jaloux seigneur de Lombers. J'arrachais les faux... Alors, j'étais en train de me tromper, c'est avec Azalaïs de Lombers. Hein, voilà. J'arrachais les fourrures du lit pour la recouvrir. Elle me jeta un regard reconnaissant. « Maintenant, tu connais mon corps comme mon esprit, et moi, je veux de même tout savoir de toi. Tu te montreras aussi à moi. Mais d'abord, as-tu des chansons à me faire entendre, et as-tu écrit sur moi ?» Je saisis ma vielle. Tout en l'accordant, j'accomplis quelques vocalises afin de me chauffer la voix, puis je me mis en tête le rythme impair, 7 pieds, pour que l'on attende un 8e, façon de faire sentir le manque. Quand je commençais, je sentis cadencer ma voix et mon souffle, j'entendis sortir de ma poitrine et de ma gorge les sons les plus doux que je voulais pour elle, je modulais, j'articulais, je susurrais, ce qu'elle avait pu lire, elle l'écoutait maintenant. J'ai encore quelques minutes. Chansu, tu première viace. Alors, ma prononciation est un peu, peut-être à revoir. Chanson, ton premier voyage, tu courras vers dame Azalaïs, car s'il veut te rendre ailleurs ensuite, en sera mieux agréé. La chanson était si appréciée de dame Azalaïs en question, que celle-ci semblait vouloir s'endormir dans mes bras au son de ma voix, en accomplissant ainsi le jaser. Cependant, il fallait respecter un minimum de délai courtois. Elle m'apprit surtout qu'elle n'avait pas de raison donnée chez elle pour découcher cette nuit. Force lui était de rentrer à Lombers en me promettant de revenir d'ici 2 jours. Le trot de son cheval et de celui de son garde du corps mirent longtemps à décroître. Le délai me parut 2 mois. Après son départ, ayant dormi comme une souche, assommé par un abattement subit, je ne fis plus que dormir et accomplir les 100 pas dans le pavillon en attendant son retour qui aurait lieu comme promis.
Voilà. Donc Raymond de Mirval. Alors c'est important quand même, je disais, c'est un récit que l'on lit donc pour le plaisir, hein, c'est un aspect très jubilatoire, hein, vous l'avez compris dans cette biographie. Mais en dehors de cela, c'est aussi la révélation de ce qu'a été cet apport dans la civilisation de l'histoire occitane, c'est-à-dire dans l'apport de la culture européenne,
hein, de l'époque, hein, puisque la culture occitane a rayonné quand même sur l'ensemble de l'Europe.
Et paradoxalement, c'est mieux connu en Allemagne et en Angleterre qu'en France.
Oui. Oui, alors ça, je n'arrête pas de dire ça, c'est-à-dire, je dis que partout où on va, si on parle des troubadours, dans le monde, on y comprend.
Et par en Italie, bien sûr.
Par exemple, à Barcelone, les troubadours, il n'y a pas de problème, s'ils sont connus. Même dans la littérature anglo-saxonne, aux États-Unis, sont étudiés, etc. Et alors, je rappelais ça à Marie-Jeanne Verny, qui disait, ben oui, paradoxalement, là, on connaît le moins, c'est chez nous. Quoi. Chez nous, c'est, on ne connaît que l'aspect le plus folklorique, entre guillemets. Alors, ce livre... Les Dames, les aventures du troubadour Raymond de Miraval, publié par les éditions TDO et qui coûte 18 euros, un très gros livre, très beau livre, sera présenté le vendredi 15 avril à 17h à la librairie Priva. Mais avant, après. Ce livre sera également présenté à la Maison de l'Occitanie, l'Hostal d'Occitanio, le jeudi 21 avril à 18h30. Voilà, dans ces locaux de la Maison de l'Occitanie, qui est rue Malcousinat, donc derrière la place Esquirol. Hein, voilà.
Alors, la librairie Priva, c'est 14 rue des Arts. Et la rue Malcousinat,
c'est 11 rue Malcousinat, c'est-à-dire cette petite rue qui part juste après la place Esquirol dans la rue Saint-Rome, sur la gauche.
Tout hein. à fait.
Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est un bon argument pour aller visiter ces lieux donc de l'Hostal d'Occitanie, ou la Maison d'Occitanie. Francis, merci beaucoup. Francis Pournon, Les Dames et les Aventures du Troubadour, Raymond de Miraval, aux éditions TDO. Voilà. Eh bien, Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanio et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.